14h sur Radio Campus Tour. Auditeurs, auditrices, bienvenue si vous nous rejoignez. Vous écoutez le 99.5 FM et vous nous écoutez aux quatre coins du monde via la web radio sur notre site radiocampustour.com. Alors, le saviez-vous, il existe à Tours un master sciences technologie, santé et mention sciences du vivant. Voilà, c'est un parcours même, je vais tout vous dire, bon, je suis une anti-sèche, hein. Infectiologie, immunité, vaccinologie et biomédicaments. Alors, des gens qui en parleront mieux que moi et qui sont dans ce studio aujourd'hui, c'est trois étudiants. Bonjour Younes Harouche.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Merci à vous d'être venus. Vous êtes également avec Valentin Bonnard.
Oui, merci pour l'invitation.
Et enfin Guillaume Bonnevie.
Oui, merci pour l'invitation.
Voilà, vous m'avez envoyé les noms par ordre alphabétique. Je souligne cette précision quand même jusqu'au bout. Et alors, pour nos auditeurs curieux, est-ce que vous voulez expliquer c'est quoi l'infectiologie ?
Alors, oui, pour commencer, l'infectiologie, c'est donc une discipline scientifique qui consiste en l'étude des micro-organismes et plus particulièrement la façon dont ils vont interagir avec l'homme, avec les animaux, avec les organismes de façon générale, comment ils vont les infecter, d'où le terme infectiologie. Et donc ça va être l'étude de ces différents mécanismes.
Alors les micro-organismes, il y en a de plusieurs sortes. Peut-être que vous voulez en dire plus.
Alors de manière générale, oui, on va avoir tout ce qui va être bactéries, mais aussi les virus hein, que l'on connaît beaucoup avec les épidémies comme la grippe ou encore le virus du Covid-19, mais nous avons aussi des parasites. Et voilà, globalement, c'est vraiment les trois catégories que l'on retrouve. Après, on a aussi les champignons, bien sûr, que l'on retrouve surtout dans le domaine hospitalier. Mais c'est vraiment ces quatre catégories qui nous intéressent le plus à étudier.
Et donc, ces organismes, est-ce qu'ils sont tous vivants ?
Alors ça, c'est une très bonne question et qui peut à elle seule soulever beaucoup de débats. Grosso modo, on va dire que pour les bactéries, pour les parasites et pour les champignons, ce sera le cas. Pour les virus, c'est un peu plus mitigé. Par exemple, en exemple de virus, on a SARS-CoV-2 qui est responsable des épidémies récentes. Et là, ça peut être une question très longue à développer, mais ici, on va dire que non.
Donc, on va dire que non. Mais voilà, donc si par hasard, parmi les auditeurs, quelqu'un veut contester, n'hésitez pas à vous manifester. On refera une autre émission débat sur le sujet. Est-ce qu'on peut fabriquer des micro-organismes, des virus ou des bactéries ou des choses comme ça ?
Bien sûr. Aujourd'hui, on est capable de faire beaucoup de choses. On a beaucoup de nouvelles technologies aussi qui sont inventées au cours du temps, mais aujourd'hui, on est capable de pouvoir modifier des organismes existants, pouvoir leur apporter de nouvelles caractéristiques. Hein, et donc, du coup, aujourd'hui, on est capable de pouvoir créer des choses, mais on les crée surtout aussi pour notre bien, parce que ça permet de pouvoir, comme dans la thématique qu'on abordera un peu durant ce congrès, justement, de pouvoir lutter contre cette antibiorésistance et d'apporter de nouvelles stratégies.
Voilà, donc on ne va pas tout de suite le détailler, mais en effet, comme vous l'annoncez, les étudiants de votre master organisaient un congrès donc, qui arrive très prochainement. Mais peut-être avant d'en parler, nous rappeler c'est quoi les objectifs du master. Donc si ce n'est pas de fabriquer des méchants virus, quels sont les objectifs ?
Alors non, on ne va pas du tout chercher à fabriquer des méchants virus. Au contraire, peut-être plus à les utiliser, à les exploiter. Donc l'objectif du master IKRVB, comme vous l'avez si bien dit, infectiologie, immunité, vaccinologie et biomédicaments. Pour les connaisseurs du sujet, ce sera tout de suite évocateur, mais pour les autres qui nous écouteraient, de façon globale, ce master il consiste en l'étude des micro-organismes pathogènes, comme dit avant, c'est-à-dire qu'ils peuvent nous rendre malades, et on étudie les moyens aussi, de l'autre côté, nous, notre organisme, comment on va pouvoir se défendre, prévenir ces infections, et aussi tout un nouveau champ disciplinaire que représentent les biomédicaments et aussi les vaccins.
Alors, c'est quoi les biomédicaments ? Parce que là, rappelez-vous qu'on s'adresse à des auditeurs qui sont peut-être au Tanneur, ou que sais-je, ou de Lyon.
Donc les biomédicaments, si on s'amuse à prendre une définition assez simpliste, ça va être tout médicament qui va être issu ou extrait du vivant. Et donc tout à l'heure, on parlait de fabriquer des bactéries, j'aime bien la façon dont c'est dit. En effet, c'est ce qu'on va être amené à faire pour des vaccins. Donc dans les vaccins, on possède, on décide de formuler des parties ou des bactéries complètes, par exemple pour un vaccin antibactérien. En biomédicaments, on peut aussi avoir tout un champ disciplinaire qu'on étudie particulièrement à Tours, que sont les anticorps thérapeutiques, des petites machines, des nanomachines qui vont nous permettre de se défendre aussi contre ces micro-organismes et bien d'autres encore.
Alors pour donner un aperçu du contenu de ce master, donc en 2 ans, n'est-ce pas, il y a quoi comme cours? Vous faites quoi? Il y a des stages? Est-ce que vous faites des choses en laboratoire? Est-ce que vous passez beaucoup de temps avec des bases de données? Qu'est-ce que vous faites?
Alors oui, pour le coup, on a un programme assez chargé. Il faut savoir qu'en première année de master, donc on a un premier semestre hein, où on a un bloc d'UE, donc d'unités d'enseignement. Et au deuxième semestre, on a un stage qui dure 7 semaines dans un laboratoire de recherche où on doit suivre une thématique. Ensuite, on a une soutenance de ce stage. Puis au Master 2, donc là, c'est le même principe. Hein, premier semestre, on a effectivement un bloc assez condensé avec une première partie qui sera divisée en plusieurs parcours. Donc on a le parcours ICM, donc pour infectiologie cellulaire et moléculaire, et le parcours immunité et biomédicaments. Donc voilà, c'est vraiment deux parcours où on va aborder différemment l'infectiologie. Et notamment, du coup, on a aussi des TP. Des TP qui sont spécifiques de chacun des parcours. Et aussi, on a pour finir un stage de 6 mois qui se déroulera de janvier jusqu'à juillet, pour la plupart, où là, à la fin, on aura un mémoire à rendre et aussi une soutenance.
C'est ça, donc globalement, un Master 1 qui va être plutôt un tronc commun entre les différents étudiants, où on va pouvoir appréhender les concepts de base. Et un Master 2, où finalement, on va plutôt se spécialiser. Ici, il y a mes deux collègues qui sont plutôt du côté de la bactérie, du micro-organisme, et moi qui va plutôt être en aval de la recherche, donc plutôt travailler sur les solutions, donc comment guérir, comment soigner, comment combattre toutes ces bactéries. Et finalement, tout ça, ça crée une émulsion, un ensemble où on se tire vers le haut.
Et alors, est-ce que vous voudriez nous dire quel métier vous ambitionnez après ce master, ou peut-être une poursuite d'études vers un doctorat?
Alors, pour ma part, moi, en effet, je projette une poursuite en thèse. C'est vraiment un défi qui me motive. Et après, je vais laisser mes camarades expliquer pour eux.
Et ben, du coup, moi, je vais suivre la même chose, le même chemin que mon camarade de classe, hein, essayer de poursuivre vers une thèse hein, dans un domaine hein, plutôt de la bactérie pour bien sûr essayer de finir enseignant-chercheur, mais aussi enseignant pour pouvoir, enfin chercheur et enseignant pour pouvoir partager mes connaissances avec de nouvelles personnes que ça intéresserait.
Moi, en l'occurrence, pour l'instant, je pense plus m'orienter vers un titre d'ingénieur d'études, pardon, et ne pas pour l'instant continuer vers, on va dire, une thèse, même si ça peut évoluer effectivement pendant le stage, vu que c'est souvent lorsqu'on fait des longs stages qu'on peut se rendre compte que peut-être on peut être amené, avec la volonté qui peut revenir, de faire effectivement un doctorat.
Et alors qu'est-ce que vous ciblez, que ce soit pour les stages, pour une thèse ou pour être ingénieur de recherche? C'est INRAE, BBV, qu'est-ce que vous ciblez?
Mais ça dépend, il y a plusieurs organismes qui ont des domaines bien précis. Hein. L'INRAE touche un peu à tout. Par exemple, là, à Tours, on a MAVIV, qui va être plus axé sur les virus. On a aussi, partout dans la France aussi, l'Institut Pasteur. Pareil, hein, ils sont assez pluridisciplinaires. Alors, je ne sais pas pour mes camarades, mais...
Alors oui, quand même, ce qu'on va ajouter, c'est qu'à Tours, on a quand même l'immense opportunité d'avoir un environnement qui est vraiment propice au développement de nouvelles thérapies. On a cité les anticorps thérapeutiques, on a aussi les nanoparticules. Il se passe beaucoup de choses à Tours, des choses à surveiller. Et en effet, c'est des lieux qui accueillent pour les stages. Et pour ma part, ce sera du côté de MAVIV pour l'étude de virus. Et c'est ça, on a MAVIV, de façon générale, on a le campus médecine avec MAVIV, d'autres équipes, le CEPR, on a l'INRAE un peu plus au nord, à Nouzy. On a Biomap qu'on trouve à notre fac de pharmacie qui étudie des biomédicaments antiparasitaires et où il y a vraiment un environnement très complet qui touche à peu près tous les micro-organismes et de toutes les méthodes assez novatrices pour pouvoir gérer et étudier ces nouvelles problématiques.
Est-ce qu'il y a un effet Covid dans ce choix d'études ?
Je pense dans le choix, après je pense que tout le monde a un peu ses préférences. C'est-à-dire que globalement, comme on l'a cité, avec tous ces petits différents micro-organismes, on va tous avoir une affinité pour chacun. Mais en termes d'études, il est vrai que dans notre parcours scolaire, durant nos différents cours, on a beaucoup plus abordé la notion de ce virus, c'est-à-dire il est apparu dans nos cours, il est apparu dans nos apprentissages. Et bien sûr, en termes d'avenir, de sujet, c'est quelque chose qu'on retrouvera beaucoup plus hein, dans les sujets de thèse. On retrouvera beaucoup plus d'études sur les virus. Alors oui, bien sûr, l'effet Covid a eu une importance aussi sur les possibilités d'avenir dans les différentes thèses, mais aussi dans les différents sujets.
Vous étiez au lycée peut-être pendant le Covid, enfin les confinements ?
Alors pour ma part, non. J'avais déjà fait ma licence 1. Et c'est à ce moment-là que ça nous est tombé dessus. Mais donc non, pas spécialement d'attrait causé ou induit par l'épidémie. On va dire que pour ma part, le SARS-CoV-2, c'est un virus parmi d'autres. Et puis il est très intéressant de l'étudier, mais ce sera pas le seul.
Oui, non, je dirais même réponse que mon camarade. Moi, pour ma part, c'était en licence 2. Que la Covid on va dire, s'est déployée. Mais non, ça n'a pas eu d'impact sur mon choix de parcours. J'ai toujours voulu faire de la microbiologie. Donc
voilà, tant pis pour le Covid ou la Covid. D'ailleurs, on dit le ou la ?
On dit la.
Qu'on se le dise.
Non, c'est un gros débat. Parce qu'il y a pas mal de gens qui disent le, mais non, c'est bien la.
Voilà, donc merci à vous. J'en profite, on a trois experts dans le studio. Et alors justement, si on regarde un peu quand même du côté du site de votre filière, on voit qu'il y a quelque chose qui s'appelle, alors en français, pour éviter comment dire, mon douloureux accent aux auditeurs, qui s'appelle une santé unique, c'est quoi ?
Alors le concept de une santé unique, c'est tout simplement de pouvoir, tout guérir, c'est-à-dire une santé qui permettrait de tout soigner.
Alors, le concept One Health en anglais, donc santé unique, c'est un concept qui va vraiment réunir plusieurs champs, qui va être multidisciplinaire et qui va consister en l'intégration de tous les systèmes, donc les animaux, les humains, tous ces systèmes vivants pour prévenir l'émergence de nouvelles maladies, pour pouvoir aussi les comprendre, savoir quand elles vont arriver, si c'est inévitable et pouvoir s'y préparer au mieux. On peut citer la grippe, par exemple, parce qu'il faut savoir que beaucoup de virus nous proviennent des animaux. À titre d'exemple, on a la grippe, on a le SARS-CoV-2, pour encore parler de lui, qui nous vient de la chauve-souris, très probablement en Chine. Et donc, c'est un nouveau champ qui se développe et qui pourrait offrir de nouvelles possibilités.
Voilà, méditez là-dessus, auditeurs, auditrices, on a injustement accusé les pangolins. Manifestement, ce n'était pas eux. Je vous propose.
On va dire qu'ils sont intermédiaires dans cette histoire.
Voilà. Je vous propose une première pause musicale et après ça, on pourra enfin parler de l'événement quand même qui vous amène dans ce studio, outre le plaisir de découvrir Radio Campus Tours, hein, quand même. C'est justement votre congrès ou colloque ou symposium. Voilà, vous me direz quelle appellation vous convient le mieux. On se retrouve après cette pause musicale.
Ah!
nous revoilà sur Radio Campus Tour 99.5 FM. C'est toujours la Méridienne. Et vous venez d'entendre un titre formidable. Donc, la de Zora, donc, ça provient du label Habibi Fun qui a refait une édition avec plein de musique des années contemporaines de cette chanteuse. Donc je crois même qu'on en a dans nos playlists. Voilà. Donc ne boudez pas votre plaisir. Écoutez aussi les playlists de Radio Campus Tour qui sont faites à la main par notre équipe de programmation musicale qui écoute plein de choses et qui fait pour vous des sélections où il y a de tout sauf du rock et des choses que vous entendez disons sur les radios commerciales. Voilà, je dis ça de façon un peu consensuelle. Alors j'en reviens pardon à mes invités qui sont là quand même dans notre studio, donc trois étudiants du master I carré, VB, ça y est, j'ai trouvé la subtilité. Voilà, donc vous êtes venus pour nous présenter un colloque. Alors, est-ce que vous voulez nous en dire plus ? Quel en est le sujet ? C'est où ? C'est quand ?
Alors du coup, c'est un congrès qui va se dérouler le 20 décembre à la faculté de pharmacie de Tours, à l'amphithéâtre A30. Donc cet événement vise un large public, hein, qu'on soit connaisseur ou non connaisseur. Puisqu'on parlera par la suite de la thématique du coup, de la résistance antimicrobienne. Ce congrès se divisera en plusieurs blocs, donc parties, hein, avec un premier bloc où on portera notre intérêt sur la résistance bactérienne et l'émergence de solutions. Un deuxième où on se concentrera davantage sur les nouvelles technologies hein, contre ces résistances. Un troisième où, cette fois, on va se porter sur les innovations thérapeutiques. Puis un dernier qui traitera des différentes perspectives politiques et économiques que cela peut engendrer, puisqu'effectivement, hein, qui dit résistance dit forcément un coût économique sur le traitement.
Comment ça se construit un colloque de cette envergure ? Parce que pour chaque thématique, vous avez des sous-thématiques et des intervenants. Donc j'imagine que vous n'y êtes pas pris 15 jours avant.
Non, bien sûr. En fait, on a contacté pas mal de chercheurs sur diverses plateformes, hein, que ce soit LinkedIn ou voilà, simplement par mail aussi, de manière à suivre la thématique chronologiquement. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quand même un sens. Hein. Par exemple, inviter des gens qui vont présenter leur domaine de manière... c'est vraiment dans l'ordre. On a aussi une superbe équipe pôle éditorial, puisqu'on a plusieurs pôles en fait dans ce congrès en fait, et chaque pôle a son rôle hein, et donc c'est le pôle éditorial qui a pu inviter les différents intervenants et c'est tout.
Oui, c'est ça, c'est que c'est un projet de longue haleine bien évidemment qui se fait pas du jour au lendemain. Comme tu l'as bien dit, on a une superbe équipe éditoriale qui s'est occupée de faire ce travail pour nous. Et on a aussi du coup des intervenants qui ont très gentiment répondu à cette invitation et qui vont pouvoir nous faire partager leurs connaissances.
Alors, ça, vous avez dit une équipe, donc ça veut dire que c'est toute votre filière de master qui participe. Du coup, est-ce que c'est inclus dans un module, c'est noté, comment ça se passe ?
Alors du coup, oui, on a notre classe entière participe à ce module. Alors en fait, c'est un module qui en lui-même va être noté, c'est-à-dire on est noté sur l'organisation en lui-même de notre congrès, hein, comme on a pu le dire. On a un groupe éditorial qui va s'occuper principalement de pouvoir recruter différents intervenants, mais on a aussi un pôle financement qui va plutôt se charger de trouver l'argent nécessaire pour pouvoir organiser celui-ci, hein, pour avoir des repas, pour avoir de quoi se restaurer. Et nous avons aussi, nous, comme nous faisons partie, donc le pôle communication qui se joue vraiment sur l'organisation aussi un peu du côté technique, des caméras. Et donc, finalement, on a vraiment toute notre classe. On s'est vraiment très bien séparé le travail. On a fait en sorte que tout le monde participe correctement. Et ensuite, eh ben, à la fin de ce congrès, nous allons pouvoir nous noter sur ce qu'on a fait, même si globalement, on a quand même fait de très bons travaux.
On pourra venir en voir le résultat, mais alors un projet comme ça, qui recoupe, enfin qui donne plein d'autres compétences que celles peut-être initiales que vous êtes venu chercher initialement dans le cadre de ce master, pour vous, quelle est la plus-value ?
Alors la plus-value, c'est que je pense que pour un certain nombre d'entre nous, c'est la première fois qu'on prépare un projet d'une aussi grande envergure. Donc vraiment, c'est aussi finalement une compétence qui s'inscrit dans ce qui nous est demandé en tant que scientifique. Une grosse part du travail, c'est de collaborer entre, entre nous, entre différents professionnels du domaine. Et donc finalement, c'est exactement ça ce congrès, c'est collaborer entre nous, les différents camarades de notre promotion, s'organiser, mais aussi du coup avec les différents intervenants et puis nos professeurs aussi, hein, dont on ne parle pas assez, qui nous chapeautent très bien sur ce sujet et qui nous font part de leur expérience et qui vraiment sont très présents dans le développement de ce projet.
Donc il y a une autre chose qui est à la mode, c'est la science avec et pour la société. Est-ce qu'un projet comme ça, à votre avis, ça entre dedans ?
Alors là, comme ça, j'ai pas...
Des haussements de sourcils autour des micros. Est-ce qu'on peut dire que ces conférences, donc vous avez dit qu'elles étaient accessibles, pas réservées à des spécialistes. Du coup, est-ce que si tout le monde peut participer, assister en tout cas à ces conférences avec des chercheurs, des experts, est-ce qu'on peut considérer que c'est une forme de médiation scientifique et du coup qu'il y a l'idée aussi de créer du lien entre les gens, au sens large, et les chercheurs, les scientifiques ?
Donc oui, c'est ça. Le but, c'est de pouvoir réunir. Alors après, on s'adresse toujours à un public qui a un certain background scientifique, mais sans en attendre énormément. Si on sait ce qu'est une bactérie, si on sait ce qu'est un virus, bah, finalement, on peut comprendre cette conférence, on peut venir, on peut apprendre et on peut participer aussi. C'est aussi ça le point important. Et on peut repartir avec un nouveau bagage qu'on n'avait pas à l'arrivée et qu'on va pouvoir exploiter dans ces projets futurs.
Je me tourne vers les autres invités. Est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose sur l'idée de réutiliser ces compétences dans autre chose après ? Est-ce que vous allez lancer un podcast ? Est-ce que vous allez devenir blogueur scientifique ?
Non, mais par exemple, ça peut toujours servir si on est amené dans notre futur travail, en tant que chef de service ou alors cadre. C'est un peu notre rôle, hein, c'est de diriger des équipes. Donc là, c'est un peu le même principe, c'est que là, il y a plusieurs pôles, chacun a ses responsabilités. Et donc, c'est toujours bien en fait, d'avoir eu une expérience antérieure sur comment organiser un grand événement de manière à être bien coordonné entre nous. Et donc c'est ça, comme l'a dit Younes précédemment, c'est ça être un scientifique. C'est vraiment réfléchir, discuter avec des personnes pour résoudre des solutions ensemble. Ce n'est pas, on va dire, un métier où on agit seul. C'est vraiment une équipe de recherche. Donc là, à notre niveau, c'est ce qu'on est en train de réaliser avec la création de ce congrès. C'est vraiment une plus-value sur l'expérience d'organiser un congrès et un événement.
Oui, du coup, comme mes camarades l'ont si bien dit, hein, c'est vraiment quelque chose qui est fait pour les personnes qui sont passionnées, hein, c'est-à-dire on n'est pas forcément obligé d'avoir des connaissances approfondies dans le sujet, même si ça va aider, mais ça permet aussi aux personnes de se faire leurs idées. C'est-à-dire, on entend toujours des choses à droite, à gauche, mais on ne sait jamais vraiment où se positionner sur certaines idées. Donc du coup, ça permet dans ce type de conférence aussi de pouvoir discuter avec des personnes qui sont professionnelles. On est vraiment sur des personnes dont c'est leur métier, dont ils travaillent dessus. Donc voilà, si on a un doute sur quelque chose, on écoute des informations, bah, on peut venir et pouvoir discuter avec ces personnes et puis repartir toujours avec plus d'informations, plus de connaissances et comme on dit, repartir moins bête.
C'est-à-dire que les chercheurs luttent contre les fake news ?
Oui, beaucoup, parce qu'il y a pas mal d'articles, par exemple, qui sont publiés mais qui sont totalement faux. Et bon, j'ai envie de dire malheureusement, enfin oui, mais bon, il y a des gens qui croient à ça et des gens qui sont dans le domaine de la science aussi qui peuvent y croire. Donc il faut faire attention à ce qu'on dit aux gens parce que du coup, ça peut avoir des conséquences mondiales hein, sur la santé, sur plein de domaines. Donc oui, c'est ça aussi le travail d'un chercheur, c'est vraiment de lutter contre les fake news.
Après, le problème de la fake news, ce qu'il faut rappeler, c'est que ce n'est vraiment pas une problématique qui s'arrête à la science. Hein. C'est vraiment un fléau de notre époque. Et oui, bien évidemment, le milieu de la science n'y fait pas exception. Et c'est totalement dans le travail de médiation d'un scientifique de pouvoir corriger ces erreurs qui peuvent être faites volontairement ou non, d'ailleurs. Hein. C'est toujours... le problème en fait, c'est que en apportant un minimum de preuves, bah, les moins éduqués sur le sujet peuvent y croire. Et donc finalement apporter une légitimité, apporter des preuves avec une légitimité, ça peut permettre de corriger et de vraiment éviter des erreurs qui peuvent être graves comme la réticence au vaccin à laquelle on est beaucoup sensibilisé, nous, dans notre master, c'est vrai.
Est-ce qu'il y a quand même, est-ce qu'il y a des anti-vax dans votre filière? Non, j'imagine.
Oula, non.
Non, non, je ne pense pas.
On ne sait jamais. Hein,
ah, on ne sait jamais.
Voilà. Bon, sur ces bonnes paroles, je vous propose une seconde pause musicale et après on pourra se pencher sur le programme de votre colloque, enfin de votre cycle de conférences. Et c'est parti, on va écouter Joby Valent. A tout de suite sur Radio Campus Tour.
Est-ce au besoin en vallée?
Non, non, non.
On fait cure à jour?
Non, non, non.
Dire bonjour, monsieur?
Non, non, non.
Dire bonsoir, madame?
Non, non, non.
Hop, mon pas vorace, m'en panie le coq des champs, mais m'en pouet, m'en pout de champ, m'en pouet. Ça qui belle, ça qui vieillit, ça qui faux, ça qui faiblit. En tout une bambou moins bon, et en tambour, mon à l'aise, en haleine, dis donc. Hop, 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 hop,
hop,
hop, hop, hop,
hop,
hop, hop, hop,
hop,
hop, hop, hop,
hop, hop,
hop, hop, hop, hop,
hop,
hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, parfait un coup de trompette ou cadi ou clarinette qu'a défié la baïonnette prends courage si m'en pète dis-moi tu es moins même en bateau dernier sang mais rôle dansé en y fait main l'autre l'a ouvert pour si cadi si puis en l'air
Ancinello,
Ancinello, Dio m'en prend, Ancinello,
fait, fait,
baby wa papa wo 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 baby wa papa wo 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 baby 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 wa papa baby wa papa wo 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 baby wa papa wo 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 baby wa papa wo 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 baby 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 wa papa
C'était Tiobi Valente sur Radio Campus Tour 99.5 FM. Avec moi en studio, trois étudiants de... Allez, je prends mon souffle. M, 2 carré, VB. Voilà, super, j'ai réussi. Bon, on verra. Alors, c'est Valentin, Younes et Guillaume. Et on peut signaler aussi qu'il y a votre promotion hein, qui vous écoute. Voilà, ils sont derrière leur poste ou leur téléphone. On les salue, on est content de savoir qu'il y a autant de public pour cet événement. Et justement, vous êtes venus nous parler de votre futur colloque, donc cycle de conférences qui aura lieu vendredi 20 décembre 2024 de 8h30 à 17h30. On rappelle que ce sera dans l'amphithéâtre 10 de la faculté de pharmacie, avenue Monge à Tours. Alors, résistance antimicrobienne pour tous. Dans ce programme fourni qu'on trouve sur Internet, puisqu'il y a un site dédié à l'événement, on trouve donc dans le programme, il y a par exemple une première conférence qui commence à 9h15, résistance bactérienne et solutions émergentes. Bon, alors pour lécher nos auditeurs, on va en dire un peu plus sur ce programme. Donc cette première intervention sur les solutions émergentes, est-ce que vous voulez nous en dire plus ? C'est quoi ces solutions émergentes ? Et il est question du contexte mondial du phénomène de la résistance aux antimicrobiens. Alors, est-ce que c'est-à-dire qu'on a à craindre une santé à plusieurs vitesses à une échelle internationale, si ce n'est déjà le cas ?
Alors, je vais juste me permettre de faire une petite correction. C'est vrai que c'est une information qui a changé. Du coup, on se déplace en amphi A30.
Ah.
Du coup, c'est bon de rappeler aujourd'hui parce que l'information n'est pas encore passée partout. Et donc oui, en effet, il faut craindre cette antibiorésistance. Il faut craindre, ainsi on pourra se préparer à la maîtriser, puisque l'antibiorésistance va être la première cause de mortalité d'ici 2050. Et c'est quelque chose de grandissant, c'est quelque chose qui évolue très vite. Et donc il est important de très rapidement trouver des nouvelles thérapies pour pouvoir prévenir ces infections, contre lesquelles finalement on se retrouverait impuissant.
Des exemples de solutions émergentes, qu'est-ce que ça pourrait être ?
Parmi les solutions émergentes, on va trouver tout un arsenal qui est en développement. On trouve les anticorps thérapeutiques dont on a parlé un peu plus tôt. Donc en quelque sorte des nanomachines biologiques, c'est un nom qui fait un peu futuristique comme ça, mais pourtant c'est quelque chose qu'on produit déjà naturellement, mais qu'on va détourner pour pouvoir vraiment... les exploiter contre ces micro-organismes résistants. On trouve aussi la phagothérapie justement qui sera présentée durant cette conférence et finalement bien d'autres choses qu'on vous invite tous à venir regarder, à venir écouter, à venir regarder.
Voilà, pas trop détaillé, ce qu'il dit, c'est quand même que les gens viennent jusqu'à la faculté de pharmacie. Alors tout à l'heure, quand même, je fais une petite parenthèse, vous avez mentionné des caméras, donc c'est-à-dire que tout va être enregistré.
Exactement, donc tout va être enregistré dans un but de pouvoir refournir du contenu, de pouvoir revaloriser finalement cette conférence, que ce ne soit pas tout simplement quelque chose qui soit daté dans le temps et qui se perde après, que vraiment ce soit profitable et que ça ne se cantonne pas au 20 décembre en fait.
Voilà, donc pour ceux qui d'aventure ne pourraient pas se déplacer, ils pourront toujours regarder les contenus en ligne. Ce sera sur un YouTube peut-être, sur le site de l'événement ?
C'est ça, ce sera sur une chaîne YouTube, donc a priori la chaîne YouTube de la faculté de pharmacie, donc qui peut facilement être trouvée. On tape faculté pharmacie de Tours et puis normalement ça devrait être retrouvable dessus. Et sinon on communiquera sur une autre chaîne YouTube, mais a priori ça devrait être celle-ci. Donc Il n'y a pas à s'en faire.
On la mettra en lien dans le podcast de cette émission. Mais bon, revenons au 20 décembre. Donc ensuite, à 9h45, nous aurons la participation de Sarah Thévenot, donc de Poitiers, sur BHR à l'hôpital et la nouvelle façon de modéliser conduisant à leur élimination. Alors, les bactéries hautement résistantes aux antibiotiques, donc est-ce que vous pouvez rappeler ce que c'est et peut-être en donner un exemple?
Alors, tout simplement, c'est quoi des bactéries hautement résistantes? C'est parce que lorsqu'on va vouloir traiter des personnes, en général, on va pouvoir donner ce qu'on prend souvent, hein, même quand on va voir son médecin, il nous donne un antibiotique, on prend cet antibiotique, et puis en général, on traite, et puis quelques jours plus tard, ça va mieux. Là, le problème de, justement, quand on parle de hautement résistante, c'est justement quand cette fois-ci, on va pas, un antibiotique ne suffira pas à pouvoir traiter cette bactérie. C'est-à-dire, il va falloir utiliser un cocktail, utiliser plusieurs antibiotiques, et justement, cette utilisation de plusieurs antibiotiques va pouvoir poser problème. Parce que, comme on le sait, hein, on ne peut pas non plus prendre une quantité d'antibiotiques astronomique pour notre corps humain. Et c'est là, justement, que la problématique va se poser. Alors, en bactéries hautement résistantes, on va surtout aussi beaucoup parler des bactéries intestinales. Parce que, comme on le sait, hein, quand on prend des antibiotiques, c'est elles qui vont être la première ligne de contact avec ces antibiotiques. Donc, quand on va avoir des bactéries, par exemple, pathogènes, eh ben, c'est elles qui vont pouvoir développer des résistances vis-à-vis de l'utilisation des antibiotiques. Alors, il en existe plusieurs. Hein. On va avoir, par exemple, des entérobactéries qui vont produire des carbapénémases, hein, qui est un fléau aujourd'hui. Hein, parce que c'est quand on sort de nouvelles gammes d'antibiotiques, on espère que celle-ci va être efficace. Et ben, en général, il faut quelques années avant de pouvoir voir des nouvelles formes de résistance apparaître et voir finalement que notre molécule qu'on vient de sortir, ben, finalement, n'est plus très efficace.
Et alors, on trouve, quand on se penche sur ces BHR, on trouve des occurrences de SARM ou alors de staphylocoque doré. Donc, est-ce que vous voulez nous en dire plus? Peut-être que nos auditeurs ont déjà entendu parler de ça.
Alors, pour le SARM, bien sûr, alors le SARM, on le retrouve dans plusieurs types d'infections. Alors, il y aura certains types qui seront abordés, justement, durant ce congrès. Donc, je n'ai pas envie de trop en dire, mais bien sûr, on parlera un peu du SARM dans le cas des infections ostéo-articulaires, hein, c'est-à-dire pour les gens qui peuvent porter des prothèses, donc c'est-à-dire au niveau osseux. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails pour que, justement, vous inciter à pouvoir venir et écouter ce que les intervenants ont à vous dire sur ce sujet.
Bon, j'essaie de les faire spoiler, hein, mais ça ne marche pas, il n'y a rien à faire, ils se sont entraînés avant de venir. Et alors, on peut trouver aussi des BHRE, c'est quoi?
Et ben, les BHRE, donc, justement, c'est très proche de ce que j'ai pu dire précédemment. En fait, cette fois-ci, ce sont des bactéries qu'on va parler d'émergentes. C'est-à-dire que, comme j'ai pu vous le dire finalement avec l'entérobactérie productrice de carbapénémas, c'est-à-dire qu'au cours de ces dernières années, on est à une évolution vers la hausse de son apparition dans le monde. C'est-à-dire qu'elle va être de plus en plus présente dans le cas des infections et du coup, qui est liée justement au côté difficile de pouvoir la traiter.
Voilà, donc venez, on le rappelle, le 20 décembre. Ensuite, on aura deux interventions où il est question de phagothérapie. Donc à 10h45, c'est Ferry de Tristan de Lyon. Et ensuite à 11h15, c'est Baptiste Gaborio de Paris. Donc là, il est question de phagothérapie. Alors peut-être que vous voulez nous en dire plus. C'est quoi ces fameux tueurs de bactéries? C'est quoi?
Eh bien, la phagothérapie, figurez-vous qu'on peut utiliser des virus pour éliminer ces bactéries. Donc oui, ça peut paraître fou dit comme ça. Mais en fait, ce sont des virus qui ne nous infectent pas nous. Mais voilà, l'évolution a fait que ces virus infectent les bactéries, uniquement les bactéries. Et donc peuvent les éliminer, peuvent les tuer. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on va essayer de détourner, qu'on va utiliser nous. Voilà, quand une bactérie, elle va obtenir plusieurs résistances à nos molécules chimiques, à nos médicaments qu'on peut se faire prescrire chez nous ou à l'hôpital, et ben, en échec de traitement, quand la bactérie est vraiment trop résistante et qu'on ne va pas pouvoir l'éliminer avec les stratégies conventionnelles, à ce moment-là, on va pouvoir utiliser ces virus. Alors, comment les trouver? Comment ils agissent? Comment les sélectionner? Et ben, finalement, tout ça, c'est la grande question de leur utilisation. Et c'est toutes des informations qui nous seront présentées justement par nos intervenants qui seront présents ce jour-là.
Enfin, on peut quand même dire que c'est une fausse nouveauté, cette phagothérapie.
En effet, c'est quelque chose qui est utilisé depuis très longtemps, qui est même utilisé depuis avant les antibiotiques, mais qu'on a abandonné parce qu'on ne maîtrisait pas certains outils biologiques et pour d'autres raisons aussi. Mais c'est un champ qui, on va dire, réémergent, qui revient et qui redevient à la mode plutôt. Et puisqu'il présente déjà une efficacité dans d'autres pays du monde. Et donc, pourquoi pas le développer en Europe désormais, en Europe et plus particulièrement en France.
Et j'ajoute quand même que dans la seconde intervention, celle de Baptiste Gaborio, il y a un lien avec l'IA, l'intelligence artificielle.
Exactement. Et bien, l'IA, donc... un champ, encore une fois, très innovant, c'est aussi l'objectif du congrès. Hein. C'est que finalement, pour répondre à des questions complexes auxquelles on n'a pas de réponse, va falloir combiner plusieurs stratégies innovantes. Et en l'occurrence, l'IA, justement, dont on entend beaucoup parler depuis récemment, cette IA va nous permettre... pourquoi pas de pouvoir identifier la bactérie, d'identifier le meilleur virus contre la bactérie. Mais après, comment tout ça, c'est pas quelque chose dont je vais avoir l'expertise, mais par contre, c'est quelque chose dont le docteur Gaborio pourra beaucoup mieux parler que moi et dont il nous partagera ses connaissances.
Voilà, donc venez écouter ces intervenants, on ne le dira jamais assez. Et je précise aussi qu'évidemment, en lien de ce podcast, on pourra mettre des liens vers des articles qui ont été écrits par les différents intervenants que vous avez invités. Hein, rappelons-le, quand même des scientifiques de haut vol. Donc on voit qu'il y a eu de la recherche pour les invités, c'est chouette. Ensuite, à 11h45, c'est Cheyenne Saqib Sohail, qui vient d'Inde. Ou en tout cas qui est un chercheur ou une chercheuse indien. Et là, c'est les modèles de grand langage pour la résistance aux antimicrobiens. C'est quoi ?
Cheyenne Saqib Sohail qui va venir nous parler elle aussi d'IA finalement et qui va donc là on sort du cadre de la phagothérapie, mais cette fois on va chercher de façon générale quels sont les médicaments de demain, quelles sont les molécules qui vont avoir une efficacité contre les bactéries. Et donc encore une fois, l'IA, c'est pas quelque chose qu'on comprend forcément tous très bien, c'est quelque chose qu'on connaît en informatique et pourtant c'est quelque chose qu'on va pouvoir appliquer à la biologie et je pense qu'elle nous démontrera très bien comment pouvoir chercher des nouvelles molécules et gagner du temps finalement dans la recherche. J'ai mon ami Valentin qui l'a très bien dit, développer un médicament, ça peut prendre de nombreuses années, le temps de rien, de trouver une molécule potentielle. Et en fait, on peut gagner beaucoup de temps avec l'IA et c'est ce qu'elle va nous présenter en nous montrant ses travaux.
Voilà, donc vous avez tout de même pensé au pause déjeuner et pause café, hein, les gens puissent se détendre, se rencontrer et échanger au cours de cette journée. Ensuite, d'ailleurs, est-ce qu'il faut s'inscrire, j'imagine, pour cette idée de déjeuner, tant qu'on y est, rappelons-le, ou c'est déjeuner libre ?
Alors, pour le déjeuner, donc on a eu les inscriptions en ligne. Donc, pour les personnes, donc bien sûr, si des personnes veulent encore venir, il y a l'inscription en ligne qui est disponible. Et bien sûr, du coup, on a quand même adapté ce repas pour ces petites pauses goûter, nous allons dire, pour les personnes qui se sont inscrites. Alors, si quelqu'un vient, on a toujours un petit plus, c'est-à-dire il en reste toujours un peu plus pour certaines personnes. Après, effectivement, ça reste quelque chose de limité. On donne à ceux, les personnes qui vont participer au congrès pourront se restaurer.
Voilà, c'est un repas végétarien.
Alors, on a prévu tous les régimes, justement, afin que tout le monde puisse se restaurer. De ce côté-là, il n'y a pas trop de questions à se poser. C'est vraiment, si vous êtes intéressé, venez, vous trouverez bien évidemment de quoi vous restaurer. Ce n'est pas un problème.
Voilà, il ne faut pas que ça freine les gens sur l'idée de venir passer cette journée à écouter des conférences. En tout cas, c'est pas ça qui devrait les retenir. Donc, si on poursuit sur le programme l'après-midi, je crois qu'on voit apparaître les champignons. Vous en avez parlé tout à l'heure en première partie de cette émission. Alors, est-ce que vous voulez nous en dire plus sur les chercheurs et chercheuses qui seront présents l'après-midi ?
Oui, bien sûr. Donc, on aura trois intervenants qui vont nous parler des nouvelles thérapies en lien avec les antifongiques. Donc on aura M. Guillaume Desoubeaux, qui est d'ailleurs un de nos professeurs à la faculté de pharmacie de Tours. Donc lui, il va nous parler des nouvelles thérapies antifongiques qui visent notamment le champignon Aspergillus fumigatus. Ensuite, nous aurons Madame Flore Nardella, qui, elle, va davantage nous parler de la résistance chez le parasite Plasmodium paciparum, qui est responsable de la malaria, à l'artémisinine. Donc, je rappelle juste que ce parasite est responsable de la malaria, qui est la deuxième maladie la plus mortelle au monde, sachant que c'est la première maladie d'origine parasitaire qui cause le plus de décès. Donc c'est vraiment des sujets de santé mondiale assez importantes, voire critiques. Puis nous aurons le docteur Hélène Strick-Marchand, qui, elle, va davantage s'intéresser à la résistance induite par le virus de l'hépatite B, où là, elle va nous parler un petit peu des différentes stratégies thérapeutiques qu'on peut mettre en place visant ce virus.
Alors j'en profite, puisque vous mentionnez la malaria ou le paludisme, hein, je peux vous dire si, je pense que c'est la même chose, mais vous pouvez le redire, parce que oui. je vois qu'une petite donnée de l'Institut Pasteur, cette maladie a causé 600 000 décès dans le monde en 2022 selon l'OMS. Donc là, on voit évidemment, parce que vous l'évoquiez en début de cette émission, les enjeux de santé majeurs en fait, qu'il y a dans toutes ces recherches. Et là, la recherche dont vous parlez sur cette résistance aux médicaments anti-paludisme, je crois que ça diffuse du Cambodge vers en tout cas, il y a un risque de diffusion vers l'Afrique. Et donc là, évidemment, on imagine bien le désastre sanitaire que ça engendrerait, si ce n'est pas déjà le cas.
Alors, justement, oui, c'est très bien dit. Je vais pas vous corriger, vous avez bien travaillé. Exactement, c'est la résistance aux antipaludiques, c'est quelque chose qui émerge. Et en fait, on n'en entend pas beaucoup parler en Europe, puisque c'est une maladie qu'on va plutôt trouver du côté de l'Asie, de l'Afrique, de l'Amérique du Sud. Mais en fait, il faut savoir que ce n'est pas une problématique qui est non plus éloignée de nous, parce que une thématique à laquelle je pense qu'on est tous sensibilisés maintenant, c'est le réchauffement climatique. Et ce réchauffement climatique entraîne la remontée du moustique qui va pouvoir nous donner, qui va pouvoir nous transmettre ce parasite. Et donc finalement, on souffrirait nous aussi de cette résistance. Et donc, c'est pour ça, en effet, 600 000 morts en 2022 avec des chiffres qui augmentent, hein, surtout. C'est aussi un point très important. Et donc, il y a un besoin urgent de développer des nouvelles stratégies, en fait.
Il y a un côté cynique, non ? De se dire que ça y est, on se penche sur la malaria ou le paludisme parce que le réchauffement climatique fait augmenter le...
Alors, nous, on ne le voit pas comme ça. On le voit plutôt comme le fait que, pour le moment, c'est localisé, malgré que ce soit quelque chose de très grave. Mais en fait, ça pourrait devenir encore plus grave, ça pourrait devenir mondial. Pour le moment, il y a déjà énormément de recherches sur le sujet. On peut citer rien qu'à Biomap, il y a une partie de l'équipe qui travaille sur cette thématique, ça ne date pas d'hier. Et en France, de façon globale, la recherche est penchée sur les thématiques depuis un bon moment déjà. Donc, pour le cynisme, pas trop.
À quand un vaccin alors contre la malaria ?
Alors, il en existe déjà, pas très efficace ou du moins pas suffisamment. À quand ? Et justement, on pourra leur demander.
Donc, le congrès se termine par la partie perspective politique et économique. Donc là, c'est Chantal Morel.
C'est ça, Madame Morel, une économiste de la santé spécialisée justement dans la résistance aux antimicrobiens. On a la chance de la recevoir dans le but d'avoir un autre œil finalement, un autre œil que scientifique. Elle va nous expliquer ce que représente en termes de fardeau financier l'antibiorésistance. On l'a dit, l'antibiorésistance, ça va être la première cause de mortalité d'ici 2050. On peut imaginer en attendant un coût qui augmenterait progressivement, mais qui est déjà très élevé. Et donc finalement, quel est nous faire un état des lieux, combien ça coûte et quelle stratégie on devrait adopter à l'avenir pour pouvoir se coordonner tous ensemble, les scientifiques, et pouvoir préparer ce fléau grandissant.
Merci à vous. Alors, avant que se termine cette émission et que vous puissiez rappeler à nos auditeurs lieu, date et toutes les informations utiles pour venir écouter toutes ces conférences, je vous propose une avant-dernière pause musicale. Alors, c'est un choix de nos invités, c'est Fanny G, ancré à ton port. Donc là, je me tourne vers les invités. Pourquoi ce choix de musique, c'est quoi ?
Non, en fait, c'est un son qui provient de la Guyane, en fait, un pays, enfin, département d'outre-mer dont je suis d'origine. Et c'est tout simplement pour faire une petite dédicace à mes amis, ma famille, tout simplement.
Voilà, alors on écoute Ancré à ton port et on se retrouve sur le 99.5 FM pour conclure cette émission.
De toi, que de toi j'ai envie.
Moi contre toi et moi.
C'était Fanny J, Ancré à ton port. C'était le choix de, musical de nos invités dans cette méridienne sur Radio Campus Tour. Résistance antimicrobienne pour tous. Voilà, vous êtes venus nous présenter votre journée de conférence le 20 décembre. Là, je rappelle que c'est trois étudiants de M2VB. Non, 2i carré, je ne vais jamais y arriver. Enfin bon, en tout cas, c'est Younes, Valentin et Guillaume. Alors, je vous laisse la parole pour redire bien à nos auditeurs c'est où, c'est quand, enfin toutes les informations utiles pour venir écouter ces conférences.
Alors du coup, on fait un petit rappel. Le 20 décembre, on organise un congrès scientifique international à la faculté de pharmacie de Tours, à l'amphithéâtre A30. Donc, ce sera toute la journée, de 9h. Jusqu'à 16h45. Donc, comme je l'ai dit précédemment, ça vise à un large public. Donc, que vous soyez connaissant du domaine ou simplement des gens qui chercheraient à découvrir, vous êtes attendus, sachant qu'il faudra que vous inscriviez sur le site internet.
C'est ça, on a un site internet disponible pour vous inscrire. Alors, va falloir faire vite parce qu'il ne reste plus beaucoup de place. Mais bon, on en compte encore quelques-unes, on a réussi à faire un peu d'espace et on vous attend pour ça. Le site, c'est un site internet Wix. Et si vous tapez CIA ETU Tour, tout collé, vous tomberez sur le site de la faculté de pharmacie en premier lien. Et à ce moment, sur un bandeau sur la droite, vous trouverez le lien de notre site internet Wix sur lequel vous pourrez vous inscrire en première page. Sinon, plus simple pour ceux qui seraient adeptes d'Instagram, vous pouvez rejoindre le compte Instagram amib-tour sur lequel vous trouverez dans la biographie de la page Instagram le site internet pour vous inscrire.
Peut-être des remerciements pour terminer cette...
Oui, merci de nous laisser le temps de pouvoir le faire. Donc, bien évidemment, merci à toute notre belle équipe d'ICARVB, au pôle éditorialisme qui a beaucoup travaillé, au pôle financement qui nous permet de rendre cette journée réalisable, au pôle communication auquel on appartient. Merci aussi à nos enseignants qui nous chapeautent sur ce projet, aussi aux différentes équipes techniques présentes sur la fac de pharmacie qui rendent ce beau projet réalisable. Merci également bien évidemment à tous les intervenants qui seront présents ce jour-là. Merci en particulier à nos deux enseignantes référentes, le docteur Isabelle Dimier-Poisson et Anne Di Tommaso, qui appartiennent toutes les deux à l'équipe Biomap. Et merci à tous ceux qui nous écoutent. Merci pour l'invitation. Merci aussi pour tous nos partenaires, c'est-à-dire la région Loire-Valais-Est, l'INRAE aussi qui nous ont financés et qui ont permis cette journée de se produire d'une façon financière. Et merci également à la fac qui participe aussi de façon financière à ce grand projet qui vise à réunir le plus grand nombre. Merci à tous ceux qui nous écoutent, je l'ai déjà dit. J'ai en particulier ma famille qui m'écoute et que je voulais remercier.
Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ?
Eh ben, moi je ne rajouterai rien de plus, à part dire merci. Merci aussi à mes deux camarades d'avoir voulu faire ce petit projet radio avec nous, qui a été aussi une belle chose, une belle aventure pour nous. Et puis aussi pour ces deux belles années avec tous nos camarades de classe de la fac qui nous avons partagé de très bons moments et qui était une très bonne période universitaire et que je leur souhaite tout le bonheur et en espérant qu'ils fassent de grandes choses et qu'ils nous trouvent de bons vaccins, de bons médicaments pour l'avenir.
Vous avez quelque chose à ajouter ?
Non, c'était à peu près tout. Je vous remercie de nous avoir aussi invités puisque sans vous, il n'y aurait pas aussi eu de radio, d'émission. Donc non, c'est tout. Je crois que mes camarades m'ont déjà tout dit.
Bon, bah alors moi, je vous remercie aussi d'être venu. Et puisque je sais qu'on a des auditeurs et des auditrices, je rappelle que vous pouvez tout à fait faire des émissions vaccinales ou non sur nos ondes. Voilà, on est une radio associative, étudiante ou pas étudiante. Et tout le monde est bienvenu pour venir parler des sujets qui vous tiennent à cœur, que ce soit de la santé, voilà, que ce soit de la recherche ou alors même de la musique, du cinéma, du sport. Tous les sujets sont bienvenus sur nos ondes, alors n'hésitez pas. Bonne journée à toutes et à tous, à l'écoute évidemment de nos excellents programmes, et on se quitte en écoutant Lana Del Rey, qui est aussi le choix de nos invités.